Je vous présente maintenant notre conférencier de ce soir, donc Moncef Chekrou, qui est professeur d'économie et de finances internationales affilié à HEC. Il a obtenu un PhD et un MBA de l'Université de Californie à Berkeley, ainsi que le diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Paris. Avant de reprendre ses activités d'enseignement à plein temps en France, il a assumé des responsabilités de création, institution building et de direction d'institutions financières. Il a ainsi cofondé et présidé la Banque d'affaires maghrébine. Auparavant, en tant que représentant de l'État, il a fondé et dirigé pendant plus de 10 ans une grande banque d'investissement méditerranéenne. Celle-ci a notamment contribué à l'innovation financière en procédant à des montages spécifiques pour le financement de plusieurs grands projets d'infrastructures et d'échanges commerciaux stratégiques. Il a fondé et dirigé l'Institut de Finance du Développement, spécialisé dans la recherche financière et la formation supérieure de managers et dirigeants pour les banques, les compagnies d'assurance et les ministères des Finances du Maghreb. Il a aussi dirigé jusqu'en 2000 un groupe de presse indépendant à Tunis. Et tout au long de sa carrière, il a assuré des enseignements dans différents instituts et universités en Europe, en Méditerranée et en Amérique du Nord. Ses domaines d'intérêt concernent les implications économiques, financières et stratégiques des rapprochements entre l'Union européenne et les économies émergentes qui lui sont voisines. Une attention particulière est accordée au rôle joué par les institutions financières internationales dans le développement des relations Europe-Méditerranée-Afrique. Je lui cède donc la parole maintenant pour une 50aine de minutes, après quoi nous aurons des questions avec le public. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis absolument touché d'être ici avec vous ce soir. Et si j'ai accepté la gentille invitation de l'UTLS, c'est parce que je savais qu'il y a des personnes comme vous qui voudraient s'ouvrir à la connaissance de l'autre, au dialogue. Et je me suis attaché dans la conférence que je vais donner, à essayer d'être le plus ouvert possible. Si je suis par trop technique quelquefois, n'hésitez pas à protester. Je me souviens que j'ai failli perdre l'amitié d'une dame que j'aimais beaucoup, qui était la responsable de notre bibliothèque à HEC, quand, avant de partir en vacances sur une île, elle n'avait pris avec elle qu'un seul document que j'avais écrit à l'époque, quand j'étais professeur à plein temps à HEC, et qui s'intitulait « L'économie du bien-être ». Et elle se disait « Je me régale à l'avance, je vais lire ça ». En fait, c'était une mauvaise traduction du terme américain « welfare economics », et c'était un document d'une 50aine de pages de mathématiques uniquement. Donc, je ne veux pas répéter la même chose, et je me lance donc dans le sujet. L'islam et l'argent. Qualifié de saleté de la vie terrestre dans la rue à Tunis, ou qualifié d'enjolivure de la vie terrestre par le Coran, l'argent a un statut totalement ambivalent chez le musulman. À quoi pense-t-on quand le terme argent est utilisé? Il peut évidemment renvoyer à son origine, la monnaie, qu'elle soit frappée dans de l'or ou de l'argent, justement, comme dans les temps jadis, qu'elle soit imprimée sur du papier, ou l'effet d'un simple jeu d'écriture, qu'elle soit plastique, ou presque entièrement invisible dans le cas des cartes de crédit. On ne voit plus l'argent dans la carte de crédit. La monnaie, et de plus en plus, son concept aujourd'hui, la monnaie est là pour remplir des fonctions bien définies dans une société. Ainsi retrouve-t-on ces trois fonctions classiques, la fonction transactionnelle, la fonction accumulative et la fonction précautionnaire dans toutes les sociétés. Que veulent dire ces termes presque barbares? D'abord, l'argent a un rôle transactionnel. Dans le sens monnaie, il constitue un moyen ou un support de transaction. Dans ce cas, il n'est plus que la contrepartie d'opérations formalisant ces transactions. le réel et le monétaire se complètent, certes, mais chaque sphère a ses caractéristiques et son modus operandi propre. Il faudrait aller chercher dans le traitement de ces opérations réelles entre êtres humains ou leurs institutions les vraies différences d'approche, de logique, d'appréciation qui finissent par se traduire par des usages, des pratiques et des règles qui régissent aussi l'attitude vis-à-vis de la sphère monétaire, c'est-à-dire vis-à-vis de l'argent. Afin d'appréhender cet aspect transactionnel de la relation de l'islam à l'argent, il est donc nécessaire d'observer la logique des transactions elles-mêmes. Les règles régissant les transactions sont-elles uniformes et homogènes à travers toutes les sociétés humaines du globe ? Elles ne l'ont pas toujours été à travers l'histoire de l'humanité, mais elles tendent vers une nécessaire coexistence planétaire. Puis, une harmonisation déjà entamée par les grandes organisations internationales, enfin, aboutissant à une homogénéisation induite obligatoirement par l'appartenance de tous à ce village global qui est en train de devenir le monde. À ce stade, deux questions se posent. Est-ce que les règles islamiques régissant les transactions sont différentes des règles pratiquées dans certaines autres régions du monde ? Et la réponse est oui. Et pourquoi ? La deuxième question, est-ce qu'elles sont, dans leur essence, englobables dans un corpus de règles universelles en voie de constitution ? Et là, je suis un peu provocateur, je réponds encore oui. Et pourquoi ? Et c'est ce que je m'attacherai à vous dire quand je finirai de présenter les deux autres aspects de la monnaie. Parce qu'ensuite, l'argent a un rôle accumulatif. Ainsi, on parle d'argent, quand on parle d'argent, on a parfois tendance à l'associer à la notion de richesse, ou à son contraire, la pauvreté. Dans ce cas, son accumulation peut représenter la fortune et avoir une connotation de classe. Cette fortune, en arabe, le mot fortune, c'est rizq, R-I-Z-K, a un sens et un traitement particulier au niveau de l'individu, variable selon les sociétés humaines, encore que, quand on pense bien, en français, on parle bien de fortune, dans le sens la fortune qu'on accumule, mais on parle aussi de bonne fortune, de chance, de risque. Donc, on retrouve dans le terme arabe de fortune, rizq, et une connotation, une sonorité, disons à ce stade-là, parce que les recherches sont encore en cours, qui nous rappelle le terme italien risco, qui est passé en français risque. Comment cette notion est-elle traitée en islam, cette notion de risque ? La création de richesse revêt un autre sens quand on considère la population entière d'un pays, puisque la somme annuelle des richesses créées ou valeur ajoutée par toute cette population constitue à la fois le produit intérieur brut et aussi, à certaines corrections près, le revenu national. Et l'argent, dans ce sens-là, va soulever un certain nombre de questions. La croissance de ce produit national est-elle favorisée en islam ? On entend souvent dire que les pays d'islam sont souvent à la traîne économiquement. Y a-t-il une relation de cause à effet ? Et la répartition de la richesse créée est-elle suffisamment équitable pour que la croissance soit le fait du plus grand nombre et bénéficie à tous ? Série de questions, parfois dérangeantes, mais qu'il faut regarder droit dans les yeux. Enfin, l'argent a un rôle précautionnaire. De quoi demain sera-t-il fait ? En islam, la science et la connaissance sont vivement encouragées. Le premier mot du Coran est Iqra, lis, une claire incitation à lire. Et pas seulement les textes sacrés. À l'époque de la révélation du Coran, le produit intérieur brut de l'empire du milieu, qu'était la Chine de l'époque, représentait le tiers du PIB de la planète. L'islam incitait alors déjà à aller chercher la science jusqu'en Chine, proverbe de l'époque. Certes, la connaissance a été valorisée par une certaine époque, a été valorisée à une certaine époque dans le monde musulman. Pourtant, deux questions se posent. La recherche de la connaissance nécessitait de l'argent. Où le trouvait-on à l'époque des grands savants musulmans? Et pourquoi ce flux d'argent vers la science et la connaissance s'est-il tari au point où les pays d'islam sont devenus parmi les moins pourvus dans ce domaine? Cependant, quel qu'en soit le degré d'avancement, la connaissance contribue à réduire les incertitudes, mais elle ne peut pas les faire disparaître. Les aléas, les maladies et les sinistres continuent à exister. Il faudrait y faire face tant au niveau des personnes qu'au niveau des collectivités. Dans le cadre de l'islam, existe-t-il des protections que la collectivité prodigue aux plus faibles contre les aléas de la vie? Et la personne peut-elle s'assurer contre certains aléas? Deuxième série de questions. Le rôle précautionnaire de l'argent est encore plus patent lors du processus de création de richesses ou de création de valeur, disons-nous, du côté de Jouy. Afin de créer de la richesse et ensuite la répartir, il faudrait trouver le financement adéquat pour cette création. Ceci mène vers certaines questions fondamentales. Le financement de l'activité peut-il se faire en islam? Du moment que l'intérêt est prohibé, ne risque-t-on pas de voir les banques fermer leurs portes et les épargnants ne plus se départir de leur épargne? En fait, si des banques déclarent travailler conformément aux préceptes de l'islam, qu'est-ce qui les distinguerait des banques conventionnelles? Dans ce qui suit, je tenterai de donner un éclairage permettant d'obtenir des éléments de réponse à toutes ces questions. Le risque, sa prise en compte et son traitement correct jouent un rôle fondamental dans l'activité de financement du point de vue de l'islam. De ce point de vue, il est nécessaire de procéder mentalement à une séparation franche entre la sphère d'activité réelle et qui produit de la richesse et la sphère monétaire qui la comptabilise et enfin la sphère financière qui avance les facteurs de production et qui se fait rémunérer quand les produits sont vendus et les recettes encaissées. La sphère physique, la sphère réelle, c'est les blue jeans, c'est les ordinateurs, c'est les services réels rendus. La sphère monétaire, c'est leur comptabilisation en euros, en dollars, en yens, en renminbi chinois. Et la sphère financière, c'est la sphère qui consiste à avancer l'argent ou les fonds nécessaires pour que l'activité de création de richesses puisse se faire. Ces trois sphères sont importantes, mais elles sont distinctes. Un exemple simple pour que l'on comprenne bien. Considérons un jeune entrepreneur. Il a besoin d'acheter des composants. Il recrute des jeunes prodiges pour les monter, monter ses composants en fabriquant des ordinateurs dans son garage. Et puis d'autres jeunes prodiges capables de vendre ses ordinateurs et faire entrer de l'argent dans le tiroir caisse de l'entreprise. L'entrepreneur risque son petit capital dans cette affaire, mais son capital ne suffit pas. Grâce à la banque, il va obtenir les composants, rémunérer ses jeunes prodiges et peut-être même louer son local. Fort de l'obtention de tous les facteurs de production, il se met à l'œuvre et fait fabriquer ses ordinateurs, les fait vendre et encaisse les recettes y afférentes. La sphère réelle, dans ce cas, concerne l'activité elle-même, le montage de transport en boutique et la vente. La sphère monétaire comptabilise tout cela dans une seule unité de compte, par exemple la devise du pays concerné, de manière à pouvoir dégager un bilan et un compte d'exploitation, c'est-à-dire des recettes, des coûts, une marge. Enfin, la sphère financière, et c'est là où la différence va apparaître, la sphère financière consiste en l'obtention des facteurs de production, composants, force de travail des jeunes prodiges, utilisation du local, et le règlement des frais ainsi occasionnés à échéance. Si la banque qui l'a financé est conventionnelle, elle va lui accorder un crédit ou un prêt. lui avancer de l'argent. Il pourra utiliser cet argent pour l'acquisition de ses facteurs de production. La banque lui réclamera ensuite l'argent prêté, augmenté des intérêts, à l'issue de la durée du prêt. Donc la relation entre la banque et l'entrepreneur se résumera en un déboursement, en le déboursement d'une somme d'argent. On a donc l'emprunteur et le prêteur. On a un déboursement d'une somme d'argent qui part du prêteur, la banque, et qui va vers l'entrepreneur. Et cette somme d'argent est rendue au banquier, au prêteur, à échéance majorée d'un intérêt convenu d'avance ou d'un intérêt variable selon l'accord et le contrat qui a été signé. Dans cette acception, l'argent a créé de l'argent. Le processus se déroule entre les deux parties prenantes, l'emprunteur et le prêteur. Donc là, c'est le prêt et le remboursement du prêt, mais n'oublions pas que les banquiers seraient fâchés avec moi si j'oubliais de mentionner qu'en plus du remboursement de prêt, il faut payer les intérêts. Le financement du jeune entrepreneur se prête donc aux deux montages financiers conventionnels ou conformes à l'islam. Où se situent donc les différences? Eh bien, d'abord, au niveau de la logique, on constate que au niveau du financement conforme aux préceptes de l'islam, le montage devrait être différent. Reprenons cela, et j'appelle ça la finance participative. Nous avons donc l'emprunteur qui est le chef, le jeune entrepreneur, le prêteur qui est la banque, et on va s'apercevoir qu'en islam, il faut toujours qu'il y ait au moins un troisième acteur, c'est-à-dire une troisième partie prenante dans l'affaire. Cette troisième partie prenante, c'est le fournisseur des composants que l'entrepreneur va utiliser pour fabriquer ses ordinateurs. Et voilà comment se monte le financement. Il y a d'abord un contrat de financement qui est établi et signé par l'emprunteur, par le prêteur et par le fournisseur, signé par les trois parties. L'emprunteur, c'est-à-dire le chef d'entreprise, choisit ses composants, choisit son entreprise. Le prêteur s'assure que ses choix sont conformes au prix pratiqué normalement et à la qualité désirée. Et il signe, une fois le contrat signé, le prêteur avance les fonds à l'entreprise. Et le fournisseur reçoit ces fonds qui représentent son paiement. À ce moment-là, que fait le fournisseur? Il va livrer les composants à l'entreprise. L'entreprise va utiliser ces composants pour fabriquer les ordinateurs, pour les vendre, pour encaisser le produit de ces ventes. Et à ce moment-là, l'entreprise va faire quoi? Eh bien, elle va payer le prêteur. Mais qu'est-ce qu'elle va lui payer? Dans l'approche islamique de ce type de financement, la banque, en payant le fournisseur, qui est la flèche verte à droite, la banque, en payant le fournisseur, s'est portée acquéreur de ses composants. Donc, le jour où ces composants ont été livrés par le fournisseur à l'emprunteur, c'est-à-dire au jeune entrepreneur, elle lui fournissait des composants qui étaient la propriété du banquier. Ce banquier, dans le contrat en pointillé, stipule qu'il va céder ses composants au jeune entrepreneur à terme, que l'entrepreneur va payer à terme un prix qui est supérieur au prix que le banquier a payé. Donc, nous allons retrouver ici ce que l'emprunteur va payer au prêteur, c'est le prix du rachat de ces composants qui étaient propriété de la banque et qui, pour devenir propriété de l'entreprise, en fait, doivent être payés plus cher. Alors, là, il y a un prix qui est majoré et ce prix constitue un taux. Alors, d'abord, au niveau de la... On va pouvoir se dire, mais attendez. Dans un cas, on l'appelle intérêt. Dans l'autre cas, on l'appelle marge ou prix majoré. Il s'agit bien de la même chose. Plusieurs personnes et plusieurs institutions étaient tentées de se dire, ben oui, c'est très facile, on l'appelle intérêt et on avance. C'est pratiquement le cas de la plupart des banques dans les pays du Golfe qui veulent attirer leur clientèle et qui prennent l'intérêt, qui lui donnent un autre nom et puis qui continuent à fonctionner comme ça. Mais à y voir de plus près, il y a deux différences importantes. Il y a une différence première au niveau de la logique de l'opération, car un financement de cette sorte veut dire que la banque s'engage auprès de l'entreprise, qu'elle fournit un effort, qu'elle a une compétence distinctive lui permettant d'évaluer et de donner son avis et de gérer efficacement sur le risque pris par l'entreprise. La banque s'engage dans la mesure où elle doit s'assurer que son financement s'inscrit sans douleur dans le processus de création de richesse, sans douleur voulant dire quoi ? Voulant dire qu'elle doit s'inscrire dans les possibilités de l'argent généré par l'entreprise dans son activité de fabrication et de vente. On dira, oui, mais c'est le béaba de toute banque qui finance une entreprise, c'est vrai, mais l'histoire du parapluie qui s'ouvre quand il fait beau et qui se referme quand il pleut continue malheureusement à circuler. La triangulation que vous avez en face de vous induit la banque à travailler dans une logique participative qui sous-tend la plupart des recommandations de la finance dite islamique. La deuxième différence se situe au niveau de la structure de l'opération elle-même ou de son schéma. Dans le cas du financement conventionnel, il n'y a que deux parties prenantes dans le contrat, l'emprunteur et le prêteur, et c'est tout. L'argent est prêté au promoteur qui achète et paie ses facteurs de production et à l'échéance indiquée, dans les conditions du prêt, il rembourse le principal et l'intérêt, et le financement dit islamique comporte au moins trois parties. D'accord, bon. Eh bien, la différence de structure va causer un certain nombre de réactions à l'intérieur de la manière dont l'argent est perçu. La perception de l'argent en islam comporte certains caractères particuliers. L'argent est considéré comme un outil de mesure de la valeur et non un actif en soi. En conséquence, la génération de l'argent, uniquement à partir de l'argent, n'est pas conforme. Est-ce à dire que l'intérêt et l'islam sont contradictoires, au risque d'être un peu provocant? Je dis pas nécessairement, car si un financement conforme à l'islam doit satisfaire une condition particulière, par exemple que le financeur du cycle de production achète effectivement la matière première ou les produits semi-finis pour les vendre à l'industriel avec une marge, ceci est consigné dans un contrat impliquant les trois parties. Cette triangulation est censé non seulement garantir la destination du prêt, mais aussi et surtout impliquer le prêteur. La rémunération du financement comporte donc de la part du fournisseur un élément d'effort et un élément de prise de risque correctement évalué. Ils sont tous les deux dans le même bateau. De cette manière, la déconnexion entre l'argent et la rémunération du financement devient bien effective. Donc la triangulation est un moyen de s'assurer de la séparation entre la sphère dite réelle de la production, la sphère dite monétaire de la comptabilisation et la sphère dite financière de la prise de risque et de la fourniture de services spécifiques. L'intérêt dans ce cas La marche d'une, de l'autre, quelle différence? Ben, en apparence, aucune. Ce qui semble visé par cette triangulation de l'opération, c'est que la boucle réelle de la production corresponde un pour un à la boucle financière. Le risque qu'une telle structure cherche à éviter est celui du dérapage, en quelque sorte, comme le patinage de ma vieille voiture quand l'embrayage commence à vieillir, et que la boucle réelle et la boucle financière commencent à tourner à des vitesses différentes. Concrètement, ceci peut se passer quand l'argent prêté par le banquier conventionnel n'allait pas tout de suite à l'achat de facteurs de production. On peut avoir envie de s'acheter en tant que PDG une petite voiture. Ou pire, quand il y avait ce qu'on appelait dans le temps, mais ce qu'on appelle malheureusement encore internationalement, de la cavalerie, qui apparemment se pratique encore malheureusement dans certaines transactions internationales. Souvent, le banquier se retrouve face à un choix difficile dans ce cas-là. Ou bien exécuter les garanties et vendre les biens mis en collatéral, ce qui peut obérer gravement la poursuite de l'activité de l'entreprise, pensez aux employés, pensez au marché. Ou bien le banquier peut attendre, rééchelonner les remboursements, mais les intérêts vont s'accumuler, la dette va s'alourdir et la banque elle-même va se mettre en risque. Dans ce cas malheureux où l'emprunteur laissé à lui-même s'enfonce dans les rééchelonnements, dans l'incapacité de payer, la banque conventionnelle peut limiter les frais en faisant jouer les garanties. Voilà, je vends le collatéral et tant pis. Mais si la valeur de ce collatéral qui affecte lui-même la valeur du crédit va baisser, la banque conventionnelle ne va pas rentrer dans ses sous. De plus, dans ce cas de figure, la banque conventionnelle ne serait pas la seule à pâtir, car l'innovation financière aidant, cette banque aurait eu tout le loisir, avant que le sinistre ne se déclare, de revendre de bonne foi, et comme elle le fait à l'accoutumée, ses portefeuilles de dettes à des fonds ou directement à des épargnants investisseurs, attirés par quoi? Mais attirés par la rémunération provenant des remboursements à venir du crédit. Et certains épargnants investisseurs ou certains fonds, sur la base de calculs compliqués, s'aventurent parfois, même en achetant des titres de dette risqués, en ne faisant pas que de l'investissement, mais en pariant sur des rendements élevés. Eh bien, c'est le cas auquel on a assisté cet été avec la fameuse crise des subprimes. Des titres risqués, contrepartie de dettes ou de crédits eux-mêmes garantis par un collatéral chancelant qui est l'immobilier des ménages aux États-Unis qui a vu sa valeur chuter. Eux-mêmes sont garantis par un collatéral chancelant. D'ailleurs, les marchés estiment que les vrais dégâts de cette crise sont encore à venir, car le nombre de transactions impliquant les instruments dits dérivés ne figure pas pour le moment dans le bilan de l'entreprise. Ils sont encore au stade de leur bilan des banques et des fonds concernés. Quelle est la preuve de cela? Eh bien, la preuve de cela est que la méfiance règne sur les marchés des prêts entre les banques, ce qu'on appelle les prêts interbancaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou sur certaines grandes places asiatiques telles que Tokyo. Les banques qui constamment se prêtaient des liquidités pour la nuit ou pour 48 heures se sont mises à se méfier de leurs voisins et elles ne se prêtaient plus ces liquidités en risquant de perdre des opportunités de placement. Et comment ont réagi les banques centrales cet été? Vous vous souvenez? De deux manières. Il y a d'abord eu des injections de quantités énormes d'argent, mais ces injections n'étaient pas des injections traditionnelles lancées au marché interbancaire, c'était de vraies injections ciblées vers, malheureusement, les plus mauvais élèves qui en ont profité. Et de ce fait, les bulles, une fois qu'elles vont remonter à la surface, on aura des comptes crédibles et on pourra en parler. Donc, ici, je me propose de vous montrer, et je vais revenir là-dessus, ce problème de bulle. Ceci est ce qu'on appelle la balance courante ou la balance de paiement des États-Unis. Elle s'arrête là en 2004. En 2004, en vert, vous avez le financement local, domestique, américain, et en rouge, vous avez le financement international. L'année 2004 est une année importante, parce que c'est l'année à partir de laquelle la majorité de ceux qui financent la balance commerciale, la balance de paiement, c'est-à-dire commerciale plus les flux financiers, la majorité de ces financements a commencé à provenir de l'étranger. J'ai évidemment demandé à prendre les derniers chiffres et voilà ce que je vous propose. Là, on a un graphique simple, mais embêtant, puisque qu'est-ce que nous avons là ? En bleu d'abord, nous avons le taux d'épargne des États-Unis et on le lit sur la courbe de droite. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il nous dit que le taux d'épargne est de 0% sur cette ligne-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'épargne rien à ce niveau-là. Si on est au-dessus, il y a quelques années, on était à un taux d'épargne de 2%. Donc, l'Américain moyen épargnait en moyenne 2% de ses revenus. Il y a un an ou deux, il épargnait 0%, et aujourd'hui, nous sommes dans une zone où le taux d'épargne aux États-Unis est négatif. L'Américain moyen, non seulement n'épargne pas, mais il vit à crédit. Et ici, en rouge, nous avons le déficit fiscal du budget de l'État en Amérique. Et qui dit déficit, dit nécessité de financement de ce déficit. D'où est financé ce déficit ? Nous avons vu ce qu'on appelle en anglais « the twin deficits », les déficits jumeaux, que sont le déficit de la balance de paiement et le déficit du budget de l'État. Eh bien, il faut de l'argent pour tout ça. Et ce que je montre ici, c'est d'abord en bleu le taux d'épargne que nous avons vu tout à l'heure, mais un peu simplifié, ce taux-là en bleu. Hein, on est à moins 1% environ actuellement. Et en rouge, nous avons la dette extérieure américaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Plus le taux d'épargne américain diminue, plus la dette extérieure américaine augmente. Donc, les États-Unis vivent en produisant eux-mêmes, en exportant, en important aussi, mais leur balance commerciale est très fortement déficitaire. Ils empruntent en plus et ils réussissent à avoir un niveau de vie qui est tout à fait remarquable, comme on va voir. Donc, les déficits énormes et récurrents d'économies importantes, telles que les États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas les seuls, et les dettes qui s'en suivent ne sont plus aujourd'hui des considérations domestiques. Le taux d'épargne américain est devenu négatif, et cette dette financée par des apports étrangers. Jusqu'à quand ces prêteurs à l'Amérique vont-ils continuer à le faire ? Des signes indique que tout comme notre sympathique banquier, cité plus haut, ces prêteurs ont dû faire face au même dilemme. Mais ils semblent être résignés à trouver d'autres solutions. La Chine, par exemple, grand prêteur aux États-Unis, la Chine vend aux États-Unis tous les ans pour 160 milliards de dollars, et elle achète aux États-Unis pour 60 milliards de dollars. Tous les ans, la Chine se retrouve avec 100 milliards de dollars sous forme de quoi ? Eh bien, sous forme de papier, très très honorable d'ailleurs, qui s'appelle les bons du trésor, qu'elle met très sagement dans ses armoires. Ce sont des dettes qu'elle détient sur l'Amérique. Eh bien, la Chine, grand prêteur aux États-Unis, a décidé, tout comme notre banquier sympathique, a décidé de passer d'une logique de dette à une logique participative. En effet, elle s'est mise à préférer acquérir, à partir de maintenant, des parts dans les fameux fonds d'investissement qui s'appellent Blackstone, et le mot Blackstone n'est pas ignoré par le grand public, puisque c'est la plus grande société d'investissement américaine, ce qui lui ouvrira la porte du capital des meilleures entreprises américaines, plutôt que d'accumuler des petits bouts de papier qui sont en fait des reconnaissances de dette sous forme de bons du trésor. Plus grave encore, pour la stabilité de tout le système, l'Arabie saoudite, qui rapatriait vers les États-Unis ses excédents de recettes à chaque augmentation du prix du pétrole. Elle aidait en fait le dollar à chaque augmentation du prix du pétrole à limiter la casse, à limiter la baisse du dollar en faisant cela. Pourtant, la baisse récente du taux d'intérêt américain a été l'occasion pour l'Arabie saoudite de commencer à décrocher sa devise du dollar, avec à terme une recomposition multidevise de leurs réserves de change, constitué principalement aujourd'hui aussi en reconnaissance de dette américaine. Les marchés financiers estiment aujourd'hui que l'exemple de la Chine, faisant des émules et considérant la vigueur à travers toute cette crise des marchés émergents, des marchés émergents tels que l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil, la Turquie, ne fera que conforter les gestionnaires des réserves de l'Arabie saoudite dans cette nouvelle orientation. Alors, la position de la finance dite islamique est remplie de « il ne faut pas, il ne faut pas ». Bien, je vais vous donner 4 « il ne faut pas » pour récapituler ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Premièrement, la dette non triangulée, où l'argent génère de l'argent, n'est pas acceptable. Deuxièmement, la vente ou la revente de la dette n'est donc pas acceptable non plus. Troisièmement, le refinancement par la vente ou la revente d'autres modes de financement acceptables ne peut se faire qu'avec un certain nombre de précautions, dont la certitude de la réalité des opérations physiques, le suivi de la valeur des actifs financés, la maîtrise de leur volatilité et surtout la précision et le sérieux de l'évaluation de risque. Le quatrième non est que toute vente d'instruments financiers, même formellement acceptable, doit avoir un caractère de transparence et de traçabilité permettant de reconstituer le calcul du risque. Sinon, cela s'apparente au gharar en arabe ou induction en erreur, ce qui est strictement interdit dans la finance islamique. Ce type de triangulation est familier quand le financement se fait par leasing, par exemple, ou location bail. Il y a un loueur du bien, de l'équipement, la banque. Il y a le locataire, l'entrepreneur, il y a le fournisseur de ce bien ou de cet équipement qui peut être un véhicule, un avion, un cargo. Il m'est arrivé de financer très souvent des avions par leasing ou des cargos, des bateaux de pêche par leasing. La triangulation est automatique dans le leasing. Vous empruntez chez le banquier, le fournisseur fabrique le bien et vous le louez, vous lui payez des loyers. Alors on va pouvoir dire, tiens, la banque paie le prix de l'équipement au fournisseur, ensuite l'entreprise paie des loyers au banquier, de taux d'intérêt que nenni. Mais non, il y a quand même un taux d'intérêt là-dedans. Il y a un taux, tout comme dans le microcrédit, il y a un taux. Il s'appelle un taux implicite. On peut le calculer à l'envers, puisqu'en payant des loyers sur quelque chose qui vaut tant, on peut déterminer quelle est la part de notre loyer qui va payer l'équipement lui-même et quelle est la part de notre loyer qui va payer les frais financiers représentés par l'effort et la prise de risque du financeur. puisque la triangulation est là, n'importe quelle banque, qu'elle soit conventionnelle ou dite islamique, va travailler exactement de la même façon. Mais dira-t-on, dans l'opération dite islamique, l'achat des intrants par la banque et leur revente à terme à l'entrepreneur, nécessairement à un prix supérieur, comporte un taux implicite que l'on peut aisément calculer, c'est exact. Ce qui explique bien d'ailleurs que la différence ne réside pas dans la sémantique, mais dans la structuration même de l'opération du financement. D'ailleurs, partant de l'existence d'un taux dans les deux formes de financement, explicite dans le cas de l'intérêt, implicite dans le cas du financement dit islamique, certains considèrent que toute cette complication est formelle, parfois on dit même hypocrite, puisque le taux existe dans les deux cas. Le cachet reviendrait à de la tartufferie. D'ailleurs, les marchés financiers étant ce qu'ils sont, et l'accès aux ressources étant mondialisé, le financement dit islamique ne peut déterminer son taux qu'en se référant lui aussi au taux pratiqué dans la profession entre les banques du monde. Par exemple, à Paris, il va se référer à ce qu'on appelle le PIBOR. À Londres, il va se référer à ce qu'on appelle le LIBOR, le London Interbank Offered Rate, qui est le taux pratiqué par les prêts interbancaires. Ou libellé, ça c'est libellé en dollars, et maintenant, évidemment, depuis l'euro, il y a le LIBOR. Tout le monde s'y réfère, tout le monde les lit. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde les applique dans des transactions qui sont à deux? Non. Non, parce que on constate sur les marchés des soukouks, les soukouks c'est le pluriel de sak qui veut dire obligation, les soukouks sont les obligations dites islamiques, sur les marchés à Kuala Lumpur en Malaisie, qui est le marché le plus important actuellement, à Manama, à Bahreïn et à Dubaï, dans le Golfe, on s'aperçoit que les taux pratiqués sont sensiblement plus bas et surtout beaucoup moins volatiles que leurs homologues conventionnels. La raison en est simple. Le risque inclus dans chacun des taux n'est pas le même. Les primes de risque diffèrent donc quand l'opération de financement est bilatérale et quand elle est triangulée. Londres, qui hésite encore, mais étudie depuis plus de 2 ans la possibilité de devenir la première capitale occidentale à accueillir le marché de ces produits dits islamiques, a déjà noté que leur rating par les agences de notation sera triple A, c'est-à-dire le plus élevé parmi la haute qualité de investissement. Mais ce que j'ai dit aussi sur les similitudes entre les deux taux est vrai, car l'ouverture d'un système sur l'autre existe en termes de comparaison des taux et de recueil d'indicateurs et d'informations. D'ailleurs, bonne ou mauvaise, on sait combien les marchés financiers en sont friands de cette information. On sait aussi que pour certains instruments financiers, il n'y a pratiquement aucune distinction entre les deux modes de financement. Le leasing, comme je viens de le dire, en est un, mais un autre consiste en les actions dites éthiques qui, maintenant, se vendent dans des fonds et s'achètent sur toutes les bourses du monde. Les deux systèmes coopèrent constamment dans ces marchés. La coopération va jusqu'au montage sophistiqué de refinancement de l'activité. Ils créent ce qu'on appelle des véhicules spécialisés à cet effet. Les Anglais, les Américains, ils appellent SPV, mais dans lesquels sont logés les actifs loués à l'entreprise. En contrepartie de ces actifs, les titres sont vendus aux épargnants que nous pourrions être, investisseurs. Pourquoi ? Parce que nous allons nous attendre à recevoir une partie du loyer, évidemment diminué des frais de gestion de certaines primes de risque, au prorata de leur acquisition de titres. Cette opération, d'ailleurs, s'appelle la titrisation et permet au public d'accéder à l'usufruit des actifs en question. Mais elle permet aussi aux banques de trouver des fonds pour recommencer l'opération une deuxième, une troisième fois, etc., en se rémunérant chaque fois au passage. Prenons un exemple réel. La Turquie, à Istanbul, avait un fameux pont qui était jeté sur le Bosphore, entre les deux rives, une rive européenne et une rive asiatique. Ce pont était embouteillé 24 heures sur 24. Donc, la Turquie avait besoin de construire un deuxième pont. Elle est allée voir les banques internationales, la Banque mondiale. Elle a fait son étude. L'étude était très bonne. Elle a demandé un prêt pour construire ce pont. Il lui a dit non. Non, Turquie. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Turquie, à l'époque, avait dépassé les fameux 60% de Maastricht. Elle avait dépassé l'endettement tolérable pour les banques. L'endettement tolérable pour les banques, je pensais que j'avais encore le graphique, quel endettement est tolérable quand il devient négatif? Eh bien, la Turquie n'a pas pu financer ce deuxième pont en recourant à des crédits bancaires. Que s'est-il passé? Eh bien, le deuxième pont sur le Bosphore à Istanbul a été financé en moins de 48 heures par le public turc qui a acheté ces titres représentant quoi? Chaque Turc qui a acheté ça, il avait un bout de papier qui représentait l'usufruit du pont. Il ne possède pas le pont, mais il possède le droit de péage du pont. Donc les droits de péage lui revenaient. Et ce pont, qui est constamment fréquenté aussi, et avec assiduité, eh bien, a fait que les pères de famille, les mères de famille, se sont dit, ben, je vais m'acheter un petit titre dans cette affaire-là. Et le pont a été financé en 48 heures. Les autorités turques avaient tenté pourtant avant, mais ne pouvaient pas. Donc l'opération telle qu'elle a été réalisée aurait pu être menée par une banque conventionnelle, ou bien par une banque dite islamique, ou bien même par un consortium réunissant les deux. C'est ce que j'ai pratiqué quand j'étais à la tête d'institutions bancaires, représentant l'État, et sur ordre de l'État, j'avais l'obligation de mobiliser la quantité la plus importante de ressources aux conditions les plus avantageuses pour que des projets d'infrastructures dont a besoin la région méditerranéenne et même jusqu'au Sahara du Sud, puisque j'intervenais même au Sénégal, puissent être financés dans de bonnes conditions. Et j'ai dû me dire, il faut comprendre techniquement le contenu de chacune des traditions. Et quand on comprend techniquement le contenu, on peut déterminer si on peut travailler ensemble, et on peut travailler ensemble. Ceci veut-il dire que les deux systèmes financiers risquent d'exister en se tournant le dos? Moi, je dis non. Ce serait plutôt l'inverse qui a toutes ses chances de se passer, car rien n'empêche la comparaison du coût du financement obtenu par l'application de cette démarche au taux d'intérêt conventionnel. Le dialogue permettrait aux deux de gagner, l'un obtenant des renseignements sur les taux à partir du pouls macroéconomique et l'autre obtenant des renseignements plus fiables sur les risques de crédit au niveau de l'entreprise et du secteur. Ainsi, ensemble, ils couvrent toute l'activité économique au niveau de l'entreprise, au niveau du secteur et au niveau de la macroéconomie. Et en plus, les deux bénéficieraient d'un avantage supplémentaire car les risques de dérapage dus à la réorientation intempestive des prêts deviendrait très limité. Donc les domaines de rencontre et de travail commun entre les financements dits islamiques et les financements conventionnels sont multiples, allant de l'échange d'informations d'indicateurs jusqu'au montage commun, d'opérations sophistiquées impliquant souvent ce qu'on appelle, et c'est un terme à la mode actuellement, le partenariat public-privé. L'État, dans tous les pays industrialisés, est appelé à diminuer son poids dans l'économie, mais pourtant, il faudrait investir dans de nouvelles infrastructures. Alors, la nouvelle formule qui est en train de se pratiquer, qui a été énormément pratiquée par l'Angleterre avant le reste de l'Europe, c'est ce fameux partenariat public-privé, PPP. Toutefois, un obstacle de taille sépare les deux types de financement. Il s'agit de la dette et de son traitement, comme indiqué plus haut. Alors, là, des nécessités d'innovation financière saine se font sentir tout le temps. Un début de collaboration a lieu justement sur le marché financier des soukouks, véritable obligation conforme aux règles de l'islam. Une fois réalisée la traduction technique des conditions que doit satisfaire le mode opératoire, la gestion peut être réalisée par les plus compétents dans le risk management, et non pas nécessairement par les plus pieux, et j'insiste là-dessus. Le marketing basé uniquement sur l'appartenance à une croyance n'est pas acceptable. Et il peut même être néfaste par les catastrophes qu'une gestion incompétente pourrait causer, comme cela s'est passé il y a une vingtaine d'années en Égypte. La Malaisie, Bahreïn et Dubaï ont développé au sein de leur banque centrale des systèmes de contrôle très efficients. C'est ainsi que le boom que connaît le marché de ces instruments, dit islamique, environ 500 milliards de dollars à ce jour, avec un taux de croissance de 20%, attire non seulement les 270 banques dites islamiques dans le monde, mais aussi et de plus en plus les grandes banques internationales telles que Citigroup, Deutsche Bank et un certain nombre de grandes banques françaises développent leur département dit islamique. Elles ont créé des départements entiers pour creuser leur niche dans ce marché. En tout état de cause, ces nouveaux développements doivent être traités comme des innovations financières ayant certainement leur mérite et leur risque propre, mais devant être aussi soumis à une réglementation prudentielle tatillonne, aussi stricte que celle qui supervise le reste des marchés financiers. Londres, comme j'ai dit tout à l'heure, est la première place occidentale qui s'est lancée depuis 2 ans dans l'étude des mesures de contrôle, d'inspection, de règles prudentielles spécifiques, et même elle est en train d'examiner actuellement la mise en place d'une législation appropriée pour garantir cela. L'être humain est merveilleux. Et je voudrais, avant de conclure sur l'être humain, partager avec vous des remarques concernant ce petit graphique. Ce petit graphique, publié par un Anglais qui s'appelle M. Lewis, représente quelque chose de très simple. Vous avez toute la population mondiale en abscisse. Donc, il y a 6 milliards d'habitants aujourd'hui. Nous sommes là, tous. Et puis, ces 6 milliards d'habitants sont classés par niveau de revenu national par tête. Le revenu per capita. Donc, vous voyez que quand on classe l'humanité par revenu per capita, on va trouver qu'il y a 1 milliard à droite qui se détache entre 5 et 6, qui est là. Il jouit d'un niveau per capita assez élevé, qui se balade entre 35 000 dollars pour les États-Unis et 25 000 pour le reste des pays industrialisés. Et puis, dès qu'on quitte ce milliard, on trouve très rapidement une steppe, une prairie, qui est absolument incroyable. Quand on regarde cela, on se dit, le monde aujourd'hui est condamné à faire du gagnant-gagnant. Quand on regarde les pays qui sont à droite, ça c'est les États-Unis, c'est le pays qui a, à part les tout petits pays tels que certains pays pétroliers, etc., mais le nombre d'habitants qu'ils ont font qu'ils ne peuvent même pas être visibles ici. Et il y a, pour mémoire, la Norvège qui dépasse les États-Unis par revenu par tête, mais nous savons que la Norvège est un pays exportateur de pétrole, qui a décidé dans son assemblée que le pétrole ne représenterait jamais plus de 20% de son budget. Donc quand le pétrole voit son prix augmenter, la Norvège vend moins de pétrole. Et puis, à part les États-Unis, nous remarquons qu'il y a un certain nombre de pays, et pas seulement européens, qui se trouvent sur ce plateau. Ce plateau qui est là, on trouve le Japon, on trouve la France, on trouve la Grande-Bretagne, on trouve l'Allemagne, on trouve l'Italie, puis on trouve les jeunes pays européens qui sont en train de monter très très vite grâce à la politique européenne d'harmonisation. Ils sont en train de monter l'Espagne, le Portugal et bientôt la Pologne et tout ça. Donc l'Europe se situe là. Mais le reste du monde, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, on trouve d'abord dans le reste du monde un pays comme le Brésil, en vert, à côté de lui la Russie, beaucoup plus loin l'Inde et au milieu la Chine. 4 pays qui font ce qu'on appelle communément le BRIC. Vous lisez Le Monde et vous savez que BRIC veut dire Brésil, Russie, Inde et Chine. c'est le noyau central des pays émergents. Aujourd'hui, la crise financière à laquelle je faisais allusion est en train de causer des ennuis à l'économie américaine qui ne croit pas aussi vite qu'elle aurait dû le faire. Elle n'est toujours pas sortie de la crise de l'an 2000. Et cela coûte aussi à l'Europe qui est là. Et ceux qui sont en train de croître le plus vite, ce sont ces quatre pays-là, les pays dits émergents. Et alors, la question que l'on pourrait se poser, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des solutions gagnant-gagnant pour que les ressources, mais au niveau mondial, soient mises au travail de manière à créer les opportunités d'emploi, de richesse, de stabilité dans toutes ces régions. Un monde, regardez, où il y a un milliard de riches, où il y a 1,4 milliard de Chinois, 1,2 milliard d'Indiens, et puis où il y a des musulmans qui sont un peu éparpillés. Où est-ce qu'on les trouve, ces musulmans? Ben, c'est vrai qu'il y en a en Chine, environ 80 millions. C'est vrai qu'il y en a en Inde, environ 120 millions. Mais regardez ici, à part le Vietnam, vous trouvez le Pakistan, le Bangladesh et le Nigeria, trois des plus grands pays musulmans en termes de population. Où est-ce qu'ils se situent dans la courbe de distribution des revenus mondiales? Ils se situent vraiment en queue de distribution. Donc mes questions de tout à l'heure sur la croissance économique, sur l'accès à la croissance, à l'amélioration du niveau de vie, à l'éducation, à la santé, sont des questions qui sont pertinentes. L'Indonésie, évidemment, est là. Vous allez me dire qu'il y a une Arabie saoudite, etc., mais en termes de population, pas suffisamment importante, et que ces gens qui sont là sont en train de trouver le moyen de coopérer avec les institutions financières, les banques du monde, et en pensant que ces moyens de coopération sont possibles. L'être humain a ceci de merveilleux: afin de survivre et de progresser tout au long de son existence terrestre, il a su tirer parti des réussites tout comme des échecs, des siens propres comme de ceux des autres. Aujourd'hui, les civilisations en sont là. Une réussite quelque part fait des émules partout. Un échec, quelque part, constitue une leçon au-delà des frontières. Une solution apportée à une difficulté, à une crise, est considérée avec attention à des milliers de kilomètres de distance. Tout ceci pour dire que, à partir des différences, peuvent naître des solutions mutuellement bénéfiques à des problèmes qui se posent aux uns et aux autres. Il n'est pas vrai que, systématiquement, le malheur des uns soit le bonheur des autres. La communauté n'est humaine que dans sa mondialité. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Donc, levez bien la main. Voilà, monsieur au milieu.
Le système triangulaire que vous nous avez exposé au début était très compréhensible, très valable quand l'entreprise a un fournisseur, mais à partir du moment où l'entreprise a des dizaines ou des centaines de fournisseurs, je ne vois pas très bien comment la banque peut acheter les composants à des centaines de fournisseurs. Ça devient beaucoup trop compliqué pour le système bancaire. Il faut que la banque puisse faire confiance à l'entreprise en mettant des fonds à sa disposition, et que pour ça la banque ait convenablement étudié la situation de l'entreprise.
Tout à fait pertinente comme intervention, et la banque doit d'abord faire confiance à l'entreprise. J'ai bien parlé de certaines entreprises, cas rares, qui font des dérapages, mais la majorité des entreprises sont là pour travailler correctement. Donc la première des conditions est que la banque fasse confiance à l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle connaît son domaine mieux qu'elle. Mais parfois, la banque peut apporter un plus à l'entreprise. Et là, je dois rendre hommage à un homme qui a beaucoup fait pour la banque et pour l'humanité, qui s'appelle Jim Wolfenson. Jim Wolfenson a été le président de la Banque mondiale pendant 8 ans. Et Jim Wolfenson a dit que la banque que je dirige, malgré les pressions qu'il recevait à droite et à gauche, est une banque de connaissances. Donc j'apporte la connaissance. Quand je devais financer des projets de produits pharmaceutiques dans la région de la Méditerranée, je prenais cette banque comme partenaire dans le tour de table, pas parce que j'avais besoin de leur argent, mais parce que quand ils venaient, ils savaient quelles étaient les dernières technologies dans le dernier projet en Thaïlande, au Costa Rica, etc. Ils m'ont permis chaque fois de aider le promoteur, le jeune promoteur, en abaissant ses coûts quelquefois jusqu'à 30%. Et voilà où c'est une situation gagnant-gagnant. Il faut faire confiance à l'entreprise, mais dans la mesure où on peut lui apporter un plus, il faut le faire. Donc dans ce cas-là, le contrat aurait été mis au point par l'entreprise si elle a 100 fournisseurs de différents matériels, et puis la triangulation se serait faite de cette façon-là. Merci pour votre question.
Oui. Pour moi, c'est un problème de définition. Par exemple, j'ai cherché dans l'encyclopédie de l'islam la définition de riba. Et en fait, on fait l'amalgame, c'est traduit par intérêt simplement. Or, semble-t-il, il y a vraiment une différence entre usure et intérêt. J'aimerais avoir de votre part ce que vous appelez, par exemple, le terme de prise de risque. Apparemment, même le mot intérêt n'est pas très adapté en français, par exemple, ou en anglais, semble-t-il. J'aimerais aussi avoir le terme en arabe, si c'était possible. Et d'autre part, je m'intéresse en fait à une histoire économique du 19e siècle, et donc c'est pour ça que je vous pose ces questions. Et quand, par exemple, cette prise de risque donc contribue au prix de la marchandise, est-ce que c'est fixé d'une certaine manière, je ne sais pas moi, annuellement ou par des banques, ou bien est-ce que des taux peuvent être déterminés d'une certaine manière?
Alors là, l'hypersimplification a souvent empêché les civilisations de se parler. Quand les gens traduisaient riba par usure, il est clair qu'ils avaient choisi un chemin de facilité épistémologique qui cause énormément de mauvaises compréhensions. En fait, l'usure a sa définition claire, propre, même légale. C'est l'intérêt excessif. Par contre, le riba, étymologiquement, c'est tout ce qui croît au-dessus de quelque chose. C'est l'excroissance. L'excroissance. Et l'excroissance est interdite quand cette excroissance n'est due qu'à l'argent. Nous-mêmes, quand un matin, si nous nous touchons et nous trouvons une petite bosse ou un petit bouton, c'est une excroissance, ça nous inquiète. Mais par contre, si la petite bosse, elle est là parce qu'on a fait une piqûre contre le vaccin de la grippe, ben on sait quelle en est la cause. Ce que les savants à l'époque, et là je dois rendre hommage aux autres conférences et à l'UTLS qui a organisé tout cela, Monsieur Abdelmajid Charfi, dont vous avez dû lire l'intervention hier sur le monde d'hier qui est distribué dehors, a bien indiqué à l'époque où le doute était encouragé en islam, les définitions venaient de ce doute. J'ai appris Descartes avant d'apprendre Al-Razali, le philosophe qui avait écrit « Le doute est le meilleur chemin vers la certitude ». Et quand j'ai dit à mon professeur de philosophie, tiens, El-Razali imite Descartes. Il me dit pas exactement, parce qu'El-Razali a vécu 3 siècles avant Descartes. Donc, cette floraison de recherche de précision s'est perdue à un certain moment. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que les gens cherchant une solution de facilité avaient tendance à obfusquer le problème. Quelles sont les conséquences ? 2. Ceux et celles qui veulent couvrir leur incompétence technique dans le domaine pour pouvoir avoir une niche. Supposons que nous parlions médecine, si quelqu'un qui n'est pas médecin veut s'accaparer les patients d'une région, il peut toujours dire « je suis sorcier ». Et il va faire ce que le médecin était censé faire, mais il ne va pas pouvoir le faire. Donc, ce manque de précision intéressait certains. La deuxième remarque est qu'en finance, en économie, tout se paye. Donc, quand j'ai parlé de prise de risque, il ne s'agit pas de casino, il s'agit de la vie. Quand on prend le risque de financer une entreprise, il faut être capable de l'évaluer. Et je vais prendre un exemple très très simple, les tontines africaines. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept des tontines africaines. Ou en Asie, la manière dont les gens relativement défavorisés dans la campagne organisent leurs emprunts. À part le microcrédit qui était lancé par M. Younous, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se mettent à 5. Et ces 5 villageois vont accéder à une ligne de crédit. Mais cette ligne est trop petite pour qu'elle puisse leur bénéficier à tous. Donc, ils décident. M. A va commencer à utiliser cette ligne de crédit. Il a besoin d'acheter une charrue, il a besoin de faire ceci, etc. Mais nous quatre, nous attendons qu'une fois qu'il a utilisé cette ligne, qu'il a commencé à générer de la richesse, qu'il rembourse, nous allons à ce moment-là être intéressés. La banque, dans cette affaire, n'avait plus besoin de système de follow-up, de système de suivi, puisque ceux qui font le suivi, ce sont les 4 autres personnes qui attendent le prêt. La gestion du risque a été transférée à la collectivité qui avait intérêt. 1. Que la personne qui a utilisé le crédit en premier l'utilise de la manière la plus efficiente possible. Deuxièmement, qu'il réussisse. Troisièmement, que les autres puissent avoir leur tour. Donc, la différence entre un prêt où, moi, banquier, je prête de l'argent, je prends un très bon collatéral, une très bonne garantie, et puis je vais vaquer à mes autres occupations, et l'autre où, en me mettant à côté de l'entreprise, en regardant les besoins de l'entreprise et en regardant les besoins de l'individu, la perception du risque n'est pas la même. Donc le prix de ce risque ne sera pas le même. Voyez. L'autre point que vous avez soulevé est extrêmement important. La détermination des taux liés au risque. Et là, on ne peut pas s'empêcher de procéder à des comparaisons internationales. Et je ne vais pas vous saouler avec des tas de statistiques et des tas d'indicateurs qui sont utilisés. Il y a par exemple un indicateur qui est assez intéressant, qui a sauté cet été, qui a sauté en 2005 aussi, c'est le coût de protection des grandes entreprises américaines contre le non-paiement. Donc il y a des assurances qu'on achète. Or la prime d'assurance pour ce genre d'incident indique le risque lui-même, puisque plus la prime est élevée, plus les professionnels craignent cet incident. Eh bien, ceci est utilisé par nous pour déterminer les risques réels dans ce marché, et on le suit constamment. Voilà comment nous pouvons, une banque peut se tromper, un professeur peut se tromper, mais la confrontation de tout ça fait qu'on converge vers une évaluation qui est opérationnelle. Je vous remercie pour votre question, madame.
Bonsoir. Alors moi, j'avais une question, en fait, relative à l'historique de ces banques dites islamiques, en fait. À partir de quel moment elles commencent à apparaître, ou en tout cas à faire valoir ce type de fonctionnement, parce que justement j'étais assez étonné, notamment par le fait qu'à Bahreïn, visiblement, ils pratiquent cela, ou que ce soit orchestré par la Banque centrale, puisque les années 70 avaient été quand même caractérisées justement par un flux qui venait beaucoup de entre autres de pays comme Bahreïn, mais qui s'en était remis aux banques européennes, américaines, pour faire des montages de financement justement vers les pays en voie de développement. Donc je me demandais pourquoi à l'époque, enfin peut-être qu'à l'époque il n'existe pas encore, mais pourquoi à l'époque finalement ils n'ont pas eu recours directement à ce système-là. Voilà.
Question très très importante. Elle me gêne un peu, mais je vais y répondre. Elle me gêne parce que quand j'étais à la tête de la banque représentant de l'État, j'ai dû lancer des SICAV et des SICAF un peu partout là où il y avait des réserves à collecter pour financer les infrastructures dans notre région. Et donc j'ai monté des SICAV et des SICAF à Bahreïn. Et à l'époque, l'activité participative, effectivement, je le confirme, n'était pas du tout encouragée. Et quand on m'avait toléré, donc je pouvais accéder à des ressources relativement intéressantes, je ramenais ces ressources, et un jour, lors d'une inauguration en Afrique d'une infrastructure, il y avait des Américains qui étaient là. Ils m'ont dit, mais où est-ce que vous avez trouvé les sous? J'ai dit, à Bahreïn. J'ai monté une société de SICAV, etc. Ils m'ont dit, mais c'est notre argent. C'est l'argent du pétrole. Il aurait dû être déposé à New York. Vous auriez dû venir l'emprunter à New York. Il plaisantait à moitié. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas dans le Golfe ni dans les pays arabes que les banques dites islamiques sont apparues. Elles sont apparues d'abord en Malaisie. La Malaisie a découvert que si elle ouvrait des fonds, et le premier fonds qui était ouvert était un fonds, il ne pensait pas du tout qu'il allait réussir autant, c'était le fonds du Hajj, du pèlerinage. Les personnes qui voulaient faire le pèlerinage épargnaient de petites sommes dans ce fonds, et le jour où ces sommes-là, qui en plus ont travaillé, donc elles ont été augmentées par le résultat, atteignaient une certaine somme, eh bien ils pouvaient aller faire leur pèlerinage. Ils se sont aperçus que ces fonds du pèlerinage, qui étaient gérés d'une manière conforme aux banques dites islamiques, étaient passés de quelques centaines de milliers de dollars à des milliards de dollars. Quand ils ont atteint 6 milliards de dollars de l'époque, c'était il y a 20 ans, la Malaisie s'est dit, mais là nous avons une source de financement de notre économie en plus. Et elle s'est aperçue qu'il y avait des réserves de ressources qui n'étaient pas utilisées parce qu'il y avait une crainte par rapport à un système qui n'était pas compris par ces gens-là. Donc ce qui a été fait, c'est une innovation financière en termes de marketing. Allons au client et faisons-lui quelque chose de sain, de contrôlable, mais qui lui convienne. Et c'est ainsi qu'à partir de la Malaisie, d'autres pays asiatiques ont suivi le pas, et c'est plus tard que les pays du Moyen-Orient ont eu la possibilité d'avoir des banques islamiques. Pour votre information, l'Arabie saoudite ne tolère pas de banques islamiques sur son sol.
Bon, l'Arabie saoudite ne tolère pas de banques islamiques. Je ne vais pas ajouter des commentaires sur ça, mais ma question c'était sur... C'est un peu perturbé. Je remercie d'abord le professeur pour ses éclaircissements. Et je m'excuse si je me parle un peu mal les français, mais je vais essayer quand même de faire le maximum pour être compréhensible. Je pense que d'après ma connaissance de ce nouveau système, et je rappelle d'abord pour la connaissance du public, qu'il s'agit d'une initiative privée. C'est la banque islamique ou le concept de la banque islamique, c'est une initiative privée créée par des hommes d'affaires musulmans qui n'est pas créée par un État musulman. Aucun État musulman n'adopte ce système qu'on appelle islamique ou plutôt participatif. C'est une idée qui émane du public. C'est une initiative privée à 100%. Et pour l'historique, pour rappeler un peu, c'est vrai qu'elle a commencé en Malaisie, mais on ne peut pas négliger quand même les rôles très importants d'un économiste égyptien qui s'appelle Ahmed Abdelaziz Nejar, qui est le premier à initier une banque participative à la localité de Mit Gamar dans le nord de l'Égypte en 1963. Et pour beaucoup d'observateurs, ils considèrent que c'est ça, la date de naissance de ce nouveau système participatif. C'est en 1963 en Égypte. Et d'ailleurs, je rappelle entre guillemets que cet économiste égyptien s'est beaucoup inspiré du système bancaire allemand. Donc il y a même une similarité très importante entre l'idée de la banque islamique dans sa dimension participative et les courants mutualistes en Allemagne. Maintenant, ce qui m'a gêné en fait dans la présentation, qui est d'ailleurs vraiment géniale, rien à dire, mais il y a quelque chose qui a été oublié un peu. Vous avez beaucoup mis l'accent sur l'une ou l'un des contrats sur lesquels s'articule la philosophie de la banque islamique qui s'appelle la Murabaha. Or, ce qui marque vraiment l'originalité du système financier islamique, c'est ce qu'on appelle la Mudaraba. D'ailleurs, c'est tous les banques, pour être déposant, pour schématiser un peu, pour être déposant dans une banque islamique, il faut signer un contrat de Mudaraba. C'est-à-dire que vous devenez propriétaire ou semi-actionnaire de l'argent de la banque. Ce qui veut dire que si la banque crée beaucoup de profits, comme ce que font par exemple actuellement les banques françaises, le BNP Paribas réalise des profits énormes, vous gagnez également de ce que la banque gagne. Tous les déposants gagnent en fonction de ce que la banque gagne. C'est-à-dire que chaque déposant est semi-actionnaire, conformément à ce contrat qu'on appelle la Mudaraba. Dans l'autre sens, c'est-à-dire lorsqu'un entrepreneur... Je vais juste...
Est-ce que vous avez une question précise?
Ma question, c'est dans le sens... Je termine là. C'est-à-dire, ce qui marque vraiment la différence entre une banque islamique et une banque conventionnelle, c'est lorsqu'un entrepreneur demande à la banque islamique de financer son activité, la banque islamique va être partenaire et non pas créancier.
Je vous remercie pour toutes ces remarques qui sont tout à fait justifiées et très vraies, absolument. Mais si j'ai choisi de ne pas parler de la Mudaraba dans une intervention de 50 minutes, c'est parce que je connais les masses d'argent impliquées par la Murabaha, qui est l'opération que j'ai décrite. Et malheureusement, la modicité, la timidité des masses d'argent dans la Mudaraba. La Mudaraba, c'est du capital risque. Elle remonte à très loin. Mohammed, sa première femme, était plus âgée que lui, Khadija. Et Khadija était fortunée. Mohammed, il n'était pas fortuné. Il savait faire une chose. Il savait faire du commerce. Khadija lui donnait 100. Il prenait ses chameaux, il allait d'Arabie Saoudite vers le Yémen, acheter des marchandises, revenait, allait vers le Chem, vers la Syrie, le Liban, acheter d'autres marchandises, revenait. S'il revenait avec 150, Khadija lui disait, les 100, je les reprends, puisque je t'ai prêté 100, enfin je t'ai confié 100, puis c'est même pas un prêt, je t'ai confié 100. Et puis les 50, on les partage. 25-25. Il a gagné 25, elle a gagné 25. Si, après avoir fait ça, il avait 80, elle reprenait les 80, elle lui dit, moi j'ai perdu mes 20, et toi tu as perdu ton effort. Donc, c'est l'approche de type capital risque. Le problème dans cette approche-là, c'est que le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui a des mesures de sécurité telles que ceci ne peut pas se faire à l'intérieur de la banque, il doit se faire dans des filiales qui sont plus exposées que d'autres risques. Mais, je suis d'accord avec vous, nous en avons besoin. Un tout petit exemple, je rentre du Bénin, et j'y vais très souvent, parce que l'organisation de la conférence islamique regroupe 56 pays, et ils se disent, les femmes d'affaires d'Afrique, les femmes d'affaires d'Asie sont très actives. Les jeunes hommes d'affaires en Afrique sont très actifs. Mais quand ils vont aux banques traditionnelles, aux grandes banques, ils leur disent, qu'est-ce que vous avez comme garantie? Ils disent rien, ils disent, bon, bye bye. Et puis, quand ils vont voir le gouvernement, les ministères, eh bien, il faudrait que leurs oncles, leurs cousins, leurs parents soient bien placés, sinon ils n'ont pas de crédit. Et alors, avec les chambres de commerce, nous sommes en train de monter des opérations exactement comme celle-là. C'est-à-dire que les ressources que nous rassemblons sont mises à la disposition d'entrepreneurs, mais ceux qui apportent l'argent sont des capitales risqueurs. On dit capitales risqueurs qui sont là avec cela. Et le dernier aussi que je voulais citer, mais j'aurais dû le citer en premier, c'est Attali, qui a monté Planète Finance à partir de Paris. Avec son nom, avec le prestigieux conseil d'administration qu'il a monté, il recueille des fonds de Bill Gates, de Turner, de etc. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces fonds? Eh bien, il répartit ces fonds à des entreprises réparties dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, et il a monté un système qui s'appelle Giraffe pour, encore, la gestion du risque, pour s'assurer que ces institutions qui bénéficient de ces fonds vont utiliser ces fonds au mieux de manière à ce que le capital risque soit pris correctement. Donc vous avez entièrement raison, mais malheureusement je ne pouvais pas parler de tous les instruments. J'espère qu'on aura l'occasion plus tard. Je l'ai pratiqué, moi, dans la banque que je dirigeais. L'État a eu l'extrême gentillesse de me permettre de ne pas payer une partie des impôts de la banque, mais de les mettre dans un fonds où je prêtais à des femmes et à des hommes qui ne venaient qu'avec trois choses. Ils avaient une connaissance de leur métier, ils avaient un marché, ils avaient une bonne renommée. C'est tout, pas de garantie. Et je vous assure que le fonds s'est multiplié. Parce que si 3 ou 4 projets marchaient sur les 10, eh bien ça régénérait le fonds. Donc faire confiance aux gens, c'est important. Merci de nous l'avoir rappelé.
Monsieur Chekrou, on vous remercie beaucoup. Merci. Donc demain, pour la dernière conférence, vous pourrez retrouver Nadine Picaudou.